Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de Goût et de Luxe. Vous savez, Goût Luxe, c'est tous les jours de la semaine et avec mon complice de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et ben, on travaille même le dimanche, je suis fatiguée, ça y est, c'est la fin de semaine.
Oui, mais moi je suis en pleine forme.
Mais j'imagine bien.
Et donc, encore monopoliser l'antenne, tout, etc.
Au programme, en tout cas ce week-end, on va faire un peu de shopping, Emmanuel, ça va vous plaire. Quand les grands magasins mettent le savoir-faire français à l'honneur, jusqu'au 15 octobre, au Bon Marché, découvrez l'exposition Paris, hein, avec un point d'exclamation. Les équipes d'acheteurs sont allées dénicher le meilleur du Made in France par des créateurs parisiens, artisans, designers, entrepreneurs proposent le meilleur de leur création, de la food, de la mode ou encore des soins. Démonstration dans un instant avec la mozzarella Ottanta. Ouais, la mozzarella faite à Paris, le maroquinier RSVP. Et puis ceux qui réalisent des patchs, ils s'appellent Abby Cactus. Allez, les nouveautés de la semaine.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et on commence traditionnellement, Emmanuel, avec le resto de la semaine.
Alors, la table événement de la semaine, ça se situe du côté de Versailles. Alors, je vais vite préciser quelque chose. On ne l'a pas testé. Je le dis parce que l'adresse est orchestrée par un certain Alain Ducasse. Alain Ducasse, cette semaine, le 13 septembre, il a eu 60 ans. C'est lui qui orchestre le restaurant.
Donc, c'est son 60e restaurant, non ?
60e anniversaire, pas loin, pas tout à fait 60, mais pas loin. Un véritable empire. Et Ducasse, aujourd'hui, va orchestrer enfin un lieu de restauration à la mesure de ce qu'est Versailles. Ça s'appelle Auré. C'est installé effectivement dans toute la géographie de Versailles, puisqu'on est vraiment au cœur du domaine, du côté du pavillon du Four. Je tiens à préciser que c'est une annonce qu'on raconte, que c'est la table événement. On ne l'a pas testé. Parce que Ducasse, dès qu'on parle d'un de ces restaurants, c'est comme si on l'avait testé. Attention, dans quelques jours, on va aller le tester. Et du côté de Good Luxe quotidien, je pense qu'il y aura deux couverts pour 13h, 14h, 20h. On en dira du bien ou pas. Faut
très
qu'il
bien.
Prévienne, monsieur Ducasse. Et d'habitude, il a un peu de mal avec ça. N'empêche que dans l'orchestration de l'adresse, c'est plutôt réussi au niveau sur le papier. On verra, elle existe. D'abord, le lieu, il n'hésite pas à jouer le grand genre. C'est-à-dire qu'effectivement, avec tous les grands faiseurs contemporains du design, notamment la marque Alessi, c'est vrai qu'ils ont, à coup de dorure, à coup de couvert en inox, à coup de cuir en argent, joué de manière très contemporaine ce qui pourrait être le grand genre qui était celui de la cour versaillaise.
Il nous annonce quoi dans l'assiette, alors ?
Alors, dans l'assiette, c'est moins l'assiette qui est intéressante que la composition. C'est un lieu qui finalement rappelle que Versailles, c'était aussi un office de bouche. C'était vraiment une affaire de bouche. Et vous savez, on a tous appris Louis XIV, le repas du le lever du roi, le coucher du roi. Il va séquencer son restaurant de cette manière-là. Ça commence dès le petit déjeuner. Et puis ça va continuer avec au déjeuner un travail qui est plutôt bien travaillé, avec les douceurs, les gourmandises, les collations. Il va pousser comme ça jusqu'en fin d'après-midi avec l'idée d'un salon de thé en hommage à ce que pouvaient être les salons de thé fantasmés
ça sera ouvert
de Versailles.
Tous les soirs à dîner ?
Alors le soir c'est différent. On rejoint l'idée de Versailles, c'est fermé au public. Là, on est plutôt dans les cérémonies, c'est une table qui devient événementielle. Appel à toutes
on
les grandes maisons
très
du
BFM
Business, vous pouvez jouer le jeu. En termes de décor, c'est plutôt réussi. C'est formidable qu'il y ait enfin une adresse
à l'auteur. Vous allez voir, vous allez tester, et après vous nous dites s'il y a encore
vous
à dire.
Hein.
En bah
tout
oui,
cas,
je suis
voilà, Ducasse à Versailles. Finalement, quand on voit le parcours du personnage, je crois qu'il y a quand même un personnage qui a un peu un ego surdimensionné.
Il remplace ça.
Le voici enfin à Versailles, je crois qu'il est ravi.
Ça
c'est le roi soleil définitif de la gastronomie.
Oh, ça va lui plaire. Ça s'appelle Auré, donc, et vous viendrez...
Bon anniversaire, monsieur Ducasse.
Vous viendrez nous redire si, effectivement, c'était à la hauteur de ces agapes versaillaises. Allez, je vous emmène à Paris, qu'un quartier studentin, un quartier touristique, du côté de la place Monge et de la rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement. Deux en un, parce que deux petits hôtels charming, comme on dirait, qui viennent d'ouvrir, ou plutôt de réouvrir. L'hôtel Monge, d'abord, on est 55 rue Monge, donc ancienne maison familiale, une trentaine de chambres, et on est complètement dans l'esprit de la maison bourgeoise du 19e. Les salons en enfilade, les moulures, le parquet point de Hongrie, j'en passe, et des meilleurs. C'est une déco signée Marie-Agnès Louboutin et Patrice Henry. 4 étoiles, un espace bien-être. On sait exactement où on est, ce qu'on y vient chercher. Il y a tout cet esprit-là. Et puis, l'hôtel André Latin, 50-52 rue Gay-Lussac, donc on n'est pas très loin. Donc, c'est Jardin du Luxembourg, place du Panthéon. C'est aussi une maison familiale. C'est la famille Sodano qui l'a repris en 1989. On est à peu près autour d'une cinquantaine, c'est 68 chambres également. Au début des années 2000, les fils reprennent l'établissement. L'architecte d'intérieur, là, c'est Michael Malapert. Et ça va vous plaire, Emmanuel, y revoir un petit peu tout ça. Et surtout, ce qui se passe autour du bar. Bar à cocktails, des petites tables bistrot, ambiance art déco, mais aussi des animations DJ set. Vous savez qu'en ce moment, les bars, eh bien, les bars d'hôtel, ils sont ouverts. Ils sont ouverts aux Parisiens. Et l'idée, c'est de faire rentrer Paris dans ces bars. Et le lobby, également, un espace dédié aux jeunes créateurs. Donc voilà, tous les deux mois, eh bien, l'équipe d'André Latin déniche des talent. Et donc, ça se passe à l'hôtel André Latin. C'est 50-52 rue Gay-Lussac, dans le 5e arrondissement de Paris. Allez, Web de Luxe!
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Tante Desprenois, bonjour, bienvenue.
Merci.
Qu'est-ce qui s'est passé sur le web cette semaine?
Beaucoup de choses encore. D'abord, vous savez que Gucci a amené progressivement la nouvelle signature visuelle de la marque avec Alexandre Michel, donc tous les petites fleurs, les bouches, les imprimés style 19e. Il continue de le faire avec sur son application cette nouvelle, cette petite plateforme qu'il a créée qui s'appelle Do It Yourself sur l'application où en fait on va pouvoir jouer avec le sac Dionysus qui est le grand classique de la maison. On en voit plein passer. On remue le téléphone, on en voit plein passer. Il y en a un, ça s'arrête sur un, quelques secondes, on le retient. Et tout de suite après, le jeu, c'est de replacer tous les éléments visuels qu'on a vus au bon endroit sur le sac.
Ah, c'est super un jeu dur. Du memory?
Ouais, c'est super dur. Moi, j'ai jamais réussi.
C'est un jeu, quoi.
Zéro. Comment?
On gagne rien.
Non, on gagne rien. Juste la possibilité de le partager sur Facebook.
C'est-à-dire rien.
C'est-à-dire la communication visuelle de la marque. Non, mais c'est business.
Je vois qu'on est d'accord.
Le jeu Gucci. C'est chic, non?
Ouais,
t'as joué au jeu Gucci, c'est plus chic que Pokémon, non?
C'est BFM Business, qu'est-ce que vous voulez?
Bravo. Corporate.
Ça, peut-être que ça va vous perdre davantage.
Oui, d'ailleurs. Quiche, je vous avais célébré l'anniversaire de Ducasse et pas celui de Madame Verniolle. Joyeux anniversaire, Madame Verniolle.
Mais elle a 20 ans, lui, il en a 60.
Ça va vous plaire davantage. Emmanuel, on consomme avec modération, mais on se fait aider.
Oui.
Et accompagner.
Alors, c'est le site qui s'appelle unsommelierdansmoncanap.com. Et en fait, c'est l'appellation Croze Hermitage qui nous propose du 26 septembre au 23 octobre de venir nous donner des cours d'œnologie à la maison quand on est parisien. Ça coûte 40 euros qu'on soit 4 ou 8. Et on a 3 cuvées à déguster. Alors, comment ça marche? Il y a 3 ateliers. On en choisit un. Le premier, c'est le vin pour les nuls. On s'initie à la dégustation. Le deuxième, le vin pour les philosophes, où on va tester des vins plus ou moins âgés et pour pouvoir faire la différence. Et puis le troisième atelier.
Pour Ducasse.
Comment? Le vin, c'est quoi? Le vin pour les fans de terroir. Et là, on va répondre à la question à savoir pourquoi est-ce que deux Croze Hermitage, il y en a un qui est fait dans le nord, un dans le sud, sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est un petit peu ça l'intérêt de cet atelier. Et pour agrémenter un petit peu ce nouvel événement, et ben ils ont créé eux aussi une page Facebook qui va nous permettre de partager sur le réseau social notre expérience.
Tout ça est virtuel. On n'a jamais les bouteilles.
Non, si, vous avez le sommelier qui vient chez vous.
Ah, mais il faut réserver, c'est génial. Un sommelier dans mon canapé.
Ah, ben voilà, ça s'appelait. Voilà comment le virtuel se met au service du terrain.
Voilà, non, et c'est formidable. 40 euros qu'on soit 4 ou 8 et puis.
Croze Hermitage. Et appellation du sud rhodanien.
Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un petit Insta pour terminer.
Insta avec Alec Baldwin, la nièce Hayley, qui est une top modèle de 19 ans, qui vient d'annoncer sur Instagram, ça a fait un gros boom, des followers de partout, je vous vois me regarder avec un œil, qui vient d'annoncer qu'elle allait lancer sa marque de cosmétiques qui s'appellera The Beauty Squad. Donc évidemment, quand on fait le hashtag The Beauty Squad, eh bien on tombe sur l'événement. Ce sera en collaboration avec la célèbre marque Salène Model Co. Et ce sera disponible sur le site modelcocosmétique au pluriel.com. On pourra tout acheter. Ce sera à partir de novembre prochain.
So chic.
So chic. Ça, c'est les filles et fils de FFD. Bonjour.
Il va falloir faire une émission un jour, mais à mon avis, il y aura la queue.
Merci beaucoup.
On aura plein d'invités sur le plateau.
Sandy, Prono, vous restez encore un petit peu avec nous. Emmanuel, un bar.
Alors, on a fait la tournée des restos, la tournée des hôtels, la tournée du digital, la tournée des bars suite avec le Dragon et Félix. Alors, ça, c'est pas un bar d'hôtel. On est dans le Marais et on est vraiment dans la belle nouvelle scène parisienne. D'abord, avec un décor qui joue avec les belles pierres du Marais. On est rue des Gravilliers. La rue des Gravilliers, pour ceux qui connaissent, c'est la rue du restaurant du 404. Ils ont plutôt réussi avec notamment un comptoir, surtout des chaises perchées, gazonnées. C'est-à-dire que vous êtes assis sur un petit gazon. mais en même temps, vous avez tout le confort du fameux chaise, de la fameuse chaise perchée du bar. Pour le reste, au niveau de la mixologie, eh bien, on est orchestré tout ça. C'est orchestré par Riccardo Vecente. On l'avait déjà vu dans pas mal de bars parisiens, notamment celui de l'hôtel Jules et Jim. C'est un chef, c'est un barman. J'allais dire chef parce qu'ils sont de plus en plus concocteurs. C'est un barman qui est d'origine portugaise. Et c'est vrai que, sans jouer sur les alcools portugais, toutes ces créations de mixologie sont très portées sur le fruit, sur l'aromatique, sur l'épice. Alors pour quelques jours encore, avec les beaux jours, c'est plutôt pas mal, notamment le 71. Le 71, c'est un de ces cocktails signature. Pourquoi ? Parce que 71 rue des Gravilliers, du pique-chaud, de la coriandre, du jus de citron vert, de l'ananas, plutôt réussi. Et puis, comme c'est la mode désormais, pas de bombard sans appui un petit peu plus gourmand. Donc il a demandé à un chef de lui orchestrer quelques petites assiettes d'obédience lusitanienne. Alors, on n'est pas forcément dans Phoenix, la morue, mais c'est plutôt bien réussi. Joli bar du moment. Discret, celui-ci.
Dragon et Phoenix 71, rue des Gravilliers, dans le 3e arrondissement de Paris. On va terminer avec l'objet de la semaine. Et quel objet ? Si je vous parle de Faber-Castell, ça vous dit quelque chose ?
Les crayons de papier.
C'est voilà, mais pas sur les grands crayons de couleur, etc. Très grande marque allemande fondée en 1761. Et donc, elle a travaillé, je vous le donne en mille, avec un très grand créateur, lui aussi, c'est KL, Karl Lagerfeld. Eh oui, mais ceci dit,
ça recommence.
Un vrai pro du dessin. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble ? Ils ont travaillé sur une malle, ça s'appelle tout simplement la Karl Box. En toute simplicité. Donc, une collection de crayons et d'accessoires pour l'art et le graphisme. Bien sûr, c'est de l'édition limitée. Je vous donne tout de suite le chiffre à retenir. 2500 boîtes. Chacune 2500 €. Mais voilà, on a une quantité de choses. 350 crayons et accessoires premium pour le dessin et la peinture. Une belle boîte en bois laqué noir. Tout ça a été un petit peu supervisé par Karl Lagerfeld. Et donc, ça y est, ça vient d'arriver dans les magasins et magasins spécialisés, dans les boutiques Karl Lagerfeld, chez Faber-Castell. So chic pour la rentrée.
Vous avez dit 1761. Je viens de faire le calcul. C'est une maison qui a 255 ans. Plus de 2 siècles d'existence. Je ne sais pas s'ils avaient véritablement besoin de Karl Lagerfeld, pourquoi pas, mais c'est quand même toujours impressionnant.
Il a quand même un vrai crayon. Et surtout, la véritable histoire, c'est qu'il en utilise énormément. Lui, il adore. Alors, je ne vous redonne pas toutes les spécificités des produits que l'on retrouve, mais notamment, il y a une gamme de crayons de couleur. C'est vraiment celle qu'il utilise, lui, pour dessiner. Donc, c'est vraiment ses outils de travail. C'est
puis,
pas,
voilà. Il y a une espèce d'alliance alémanique.
Voilà. Un petit peu aussi.
Très bien.
Voilà. Et ça s'appelle donc la Karl Box. Allez, c'est parti, nous on va continuer à faire un petit peu de shopping. Merci infiniment, Sandy Prenois, à la semaine prochaine.
On va aller les filles.
On va aller au Bon Marché, là-bas ils mettent pas forcément à l'honneur la création allemande en ce moment, peut-être ça viendra, mais en l'occurrence en ce moment c'est plutôt la création parisienne et le Made in France. À tout de suite.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, le luxe de la semaine.
Good Luxe Paris qui s'arrête au Bon Marché. Parce que finalement, le Bon Marché a aussi ses Good Luxe parisiens. Vous auriez pu l'appeler comme ça. Finalement, votre exposition, c'est l'exposition Paris avec un point d'exclamation qui se tient jusqu'au 15 octobre. Sophie Joly, bonjour.
Bonjour.
Directrice du département événements commerciaux au Bon Marché est avec nous pour nous en parler. Vous êtes venue avec quelques-unes des marques que vous avez invitées. Il y en a plus d'une quarantaine à participer à cette exposition. Donc, bien sûr, des marques parisiennes. Nous sommes donc en compagnie d'Étienne Picotti. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Abby Cactus. On va parler... Oh non, je dis pas. On va voir, vous allez voir, Abby Cactus, ça va vous inspirer quelque chose. Nous sommes en compagnie de Sarah Lacomba. Bonjour.
Bonjour.
Fondatrice de Otanta. On va parler fromage frais italien made in Paris avec vous.
Oula.
Et puis...
Répétez.
Non, vous allez voir. Thomas Serkevic, bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de RSVP Paris. On va parler maroquinerie avec vous également. C'est quoi l'idée chaque année, Sophie Joly, vous mettez à l'honneur une ville. Il y a eu Brooklyn, par exemple, dont on avait parlé
l'année dernière. C'est pas une ville, c'est un quartier.
Ouais, c'est un lieu, c'est vrai. Mais pourquoi Paris cette année ? C'est
Enfin.
Ou malheureusement,
passés,
malheureusement, ce sont les attentats. C'est tout ce qui a pesé sur Paris qui vous a fait dire il faudrait peut-être quand même qu'on pense à notre ville?
Alors, on travaille sur l'exposition depuis plus d'un an et demi. Ça. Donc, c'est pas lié aux événements dont vous venez de faire référence. On fait chaque année, en effet, une exposition sur un pays, sur une ville, sur un quartier. Depuis plusieurs années, il y a eu Brooklyn, il y a eu le Brésil, il y a eu le Japon. Et puis, on a souhaité cette année mettre Paris à l'honneur, faire redécouvrir Paris aux Parisiens, mettre en avant toute cette créativité foisonnante, ces créateurs qui vont parler de leur travail, qui sont des jeunes reconvertis, qui font à Paris plein de choses, qui du coup produisent à Paris, qui revendiquent haut et fort les couleurs de leur quartier. Et c'est important pour nous de mettre en avant tout ça au bon marché.
Réaliser
de cette exposition.
Non, juste avant d'entrer vraiment dans l'angle qui est cette année l'angle parisien, comment vous expliquez qu'aujourd'hui les grands magasins parisiens et entre autres le Bon Marché sont de plus en plus des, je vais pas dire des lieux de culture, mais pas loin, des lieux où on a un besoin d'exposer, quasiment d'éditorialiser le propos. Aujourd'hui, c'est dans les grands magasins. Là, on est dans peut-être une matrice un peu plus commerciale, mais aussi aujourd'hui des lieux de cul, des expositions d'art, de photographie, des fois des dédicacionnaires. Comment se fait-il que les grands magasins deviennent aujourd'hui des lieux d'exposition, des lieux ouverts au public où finalement on peut rentrer sans même consommer?
Alors pour le
c'est important pour vous, il n'y a pas de grand magasin aujourd'hui sans cette matrice-là?
Alors je parlais surtout au nom du Bon Marché. Pour le Bon Marché, la grande épicerie, ça fait vraiment partie de notre ADN, mais depuis plusieurs années.
C'est vrai.
L'art, la culture, les expositions. L'exposition Paris est une exposition commerciale, mais dans laquelle on parle aussi de Fred Le Chevalier, qui est notre partenaire sur la partie plutôt culturelle.
On rappelle qui est Fred Le Chevalier rapidement?
Oui, Fred Le Chevalier.
Donc vous, au Bon Marché, vous connaissez tout, mais...
Alors c'est un street artiste qu'on retrouve dans différentes rues de Paris, qui fait des silhouettes d'hommes et de femmes. Il a un trait qui est très reconnaissable en noir et blanc.
Et puis en ce moment, quand vous rentrez dans le Bon Marché, vous pouvez pas le rater. Ces figurines sont en plein milieu, comme ça, suspendues.
Exactement.
Notamment.
Il a mis en scène tout un bal de Parisiens et de Parisiennes qui sont suspendus sous les verrières du Bon Marché.
Et donc aujourd'hui, des lieux qui sont des espèces de carrefours culturels. À mi-pente de l'art, de la littérature et du reste. Et puis aussi, ce besoin quand même d'une matrice commerciale. C'est important. Aujourd'hui, on ne peut pas vendre sans avoir une espèce de philosophie derrière, raconter une histoire.
C'est important de raconter une histoire. C'est d'autant plus important que les marques avec lesquelles on collabore ont toute une histoire derrière. Elles ont une philosophie. Pour nous, c'est important de le dire aux clients et pas uniquement de proposer du produit. Et ça a toujours été un leitmotiv pour le Bon Marché et une manière d'avancer et de travailler qui plaît à nos clients.
Même si celles-ci, elles sont souvent très jeunes, on va le voir avec notre petit tour de table. On disait plus d'une quarantaine de marques, aussi bien
150,
évidemment du
même,
côté.
Ouais. 150 grande épicerie Bon Marché,
ah
il y a
oui, c'est
150
ça.
Marques qui collaborent.
Donc, c'est ça, la grande épicerie donc du food, des boissons, ce qu'on verra tout à l'heure, mais aussi de la mode, du design, des soins, etc. Comment vous les avez repérés? Et quelle était plutôt la ligne de fuite? Parce que finalement, vous n'avez peut-être pas toutes prises. Il y a plein de choses qui se font à Paris. Qu'est-ce qui fait que ça rentrait dans votre esprit?
Alors, quand on a commencé à parler de Paris, donc il y a un peu plus d'un an et demi, on s'est dit, finalement, c'est une des expos les plus difficiles à travailler pour le Bon Marché, parce qu'il va falloir surprendre des Parisiens. On a une clientèle au Bon Marché qui est essentiellement parisienne, et va falloir leur faire redécouvrir
Paris. Parce que dans le quartier, on rive gauche, du côté de la
Exactement.
Boutique, il y a une densité de boutiques et de créations qui fait que votre propre public du quartier est déjà bien alerté.
Oui,
comment le surprendre?
Exactement. Et bien alors là, on est parti une semaine, enfin même un peu plus d'une semaine avec des équipes du Bon Marché. On a pris un bus et on a parcouru Paris. On a fait un voyage dans Paris pendant une semaine. Et donc on est allé à la rencontre des...
Ah, c'est sûr que ça, c'est pas Miami, Japon, Brooklyn. Hein.
C'est différent, c'est moins loin. Mais ouais. C'était tout aussi intéressant et on a trouvé plein de choses. On a poussé des portes derrière lesquelles on a fait des rencontres super qui nous ont mis en lien avec d'autres personnes. Et en fait, c'est aussi très fort dans cette Expo Paris, cet esprit de communauté, c'est-à-dire qu'avec les gens qu'on a rencontrés au fur et à mesure, on a rencontré de nouvelles personnes, on a rencontré de nouvelles marques, on a tissé un lien et l'angle qu'on a choisi de prendre avec cette Expo Paris, il est venu tout naturellement à nous quand on a rencontré ces personnes, quand on a échangé, quand ils nous ont raconté leur histoire et qu'on s'est dit, bah oui, finalement, tout ça, ça nous surprend et ça va forcément surprendre nos clients.
Mmh. Alors, ce qui les rapproche, parfois, c'est la défense d'un quartier. On sent que, voilà, ils s'appuient beaucoup sur leur quartier, ils en sont fiers. Et puis aussi, je disais, de très jeunes créateurs, de jeunes entreprises. Et souvent, pourtant déjà reconvertis. Ils ont des histoires auparavant. Thomas Serkevic, je me tourne vers vous. RSVP Paris. Donc ça, c'est de la maroquinerie, pas made in Paris, mais made in France. Mais pensez à Paris. Ça,
imaginez
c'est
à Paris.
Imaginez à Paris. Vous étiez consultant chez Accenture.
Oui.
Et puis, pourquoi, à un moment donné, on se lance dans la maroquinerie? Et vous allez nous raconter quelle maroquinerie?
Alors, moi, à titre personnel, il y a deux raisons. La première, c'est un peu un ADN, un patrimoine familial. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Il y a quatre maroquiniers dans ma famille. Mon oncle est tailleur, mon grand-père était tailleur. Donc je pense que ça me précédait un peu.
Forcément, ça déteint.
Ouais, moi aussi.
Exactement. Et puis la deuxième raison, bah, c'est un peu une envie, une passion aussi du savoir-faire. Et puis bah, un regard sur le marché, une envie de proposer une maroquinerie qui soit peut-être un peu plus contemporaine que l'offre qu'on trouvait jusqu'à présent dans la maroquinerie de luxe. On avait envie de quelque chose qui soit plus en direct avec les clients, avec un modèle de distribution aussi qui soit peut-être un peu différent de ceux auxquels on était habitués dans le commerce traditionnel. Et donc voilà, on s'est lancé là-dedans, ça fait un an maintenant.
Alors, on va revenir sur ce modèle de distribution, sur les axes sur lesquels vous pouvez bousculer. Comme vous le dites, hein, c'est pas simplement sur le produit en soi, mais c'est aussi la manière de le communiquer, donc la distribution. Mais vous venez de dire quelque chose d'intéressant, c'est le penser à Paris.
Ouais.
Une fois qu'on a lâché la formule, alors le Made in Paris, au moins, ça a le mérite d'être fabriqué à Paris.
Comment,
pourquoi, j'en sais rien, mais au moins, c'est fabriqué, c'est Made in Paris. Quand on dit Made in, penser à Paris, ça veut dire quoi?
Bon,
parce que vous dites, vous êtes, il y a une vraie culture, la maroquinerie à Paris.
Oui.
Il y avait des quartiers, des communautés, qui ont effectivement inventé une maroquinerie parisienne. Est-ce qu'il vous en reste quelque chose, ou est-ce que c'est juste une formule pour que le bobo soit satisfait?
Non,
à la
je crois
fin,
qu'il
je veux dire, oh, ben, c'est du Paris.
J'espère
ça
pas.
Pourrait être inventé à Limeil Brévan ou à Poutaille-Schnock.
Ouais, ouais, non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a à la fois dans le dessin des modèles, bon, un certain style, on va dire. Nous, on s'inspire beaucoup aussi du style parisien. Alors, c'est un peu galvaudé comme expression, mais de la nonchalance parisienne, des gens qu'on croise dans la rue, de la manière dont s'habillent les Parisiens, qui est très caractéristique. Vous allez à New York, vous demandez aux New-Yorkaises de vous parler de la manière dont s'habillent les Parisiens. Elles auront une réponse certainement très intéressante. Et puis la deuxième, c'est que c'est vrai, Paris est une place de savoir-faire. Donc on a encore des contacts avec des tanneurs, beaucoup à Paris. Il y a des quartiers qui sont notamment les anciens quartiers des faubourgs, dans lesquels on trouve encore beaucoup de tanneurs, quelques petits artisans, alors qu'ils sont vraiment à des petites échelles. Mais c'est vrai qu'il y a historiquement à Paris beaucoup de savoir-faire.
C'est bien bossé, hein.
Ouais, on reviendra.
C'est joli, on répond par la nonchalance parisienne, ça suffit.
GRSVP un peu plus amplement, mais ce qui est bien, c'est qu'on a choisi avec vous, bien sûr, Sophie Joly, trois histoires différentes et qui représentent assez bien les différentes marques que l'on peut trouver. Abicactus, là, on est plus dans la tendance ou peut-être dans la fête. Vous, au départ, vous avez créé un label.
Ouais.
C'est bien ça. Étienne, créateur du label Pain Surprise. Et donc, comment on arrive à un moment donné à faire des patchs? Parce que c'est ça, des patchs, des petites broderies qu'on s'accroche aux vêtements,
ouais,
et ailleurs.
C'est des patchs qui se scratchent et se déscratchent à l'infini, comme ça. Et on peut les mettre n'importe où, sur des pochettes par exemple. Et
vous avez peut-être entendu à la radio, ils viennent de se déscratcher un
œuf au plat.
C'est l'astronaute qui est en montée, après il peut être en descente. Ça arrive parfois.
Ah bah ouais, je comprends.
Et c'est à peu près l'infini en fait, cette marque prévermée, l'infini.
Pourquoi cet accessoire? Est-ce que c'est parce que justement c'est le petit truc en plus qui fait que ça va twister un élément? On a vu beaucoup, à un moment donné, on a vu beaucoup de créateurs de nœuds papillons, de cravates, etc. Là, on est sur des accessoires du 21e siècle, du 22e siècle?
C'est exactement ça. En fait, quand j'ai eu l'idée, j'avais pas forcément l'envie de lancer une marque de vêtements. Par exemple, lancer une marque de t-shirt à message, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Même s'il y en a qui le font très bien.
Bien fait, ouais.
Et c'est parti d'un dîner avec un ami. Et on s'est dit, mais ce serait quand même fou de faire des vêtements qui ressemblent à une personne et qui est déclinable dans tous les sens. Mmh. Et en y réfléchissant un peu, les patchs sont apparus comme la solution un peu miracle. Donc je suis allé voir Zit, que je connais, avec qui je suis associé dans cette marque.
Zit, qui est votre créatrice et qui les fabrique entièrement à la main.
Qui les fabrique un par un à la main, dans notre atelier qui est à Montreuil. Et Zit a trouvé l'idée super, et le défi, elle l'a trouvé assez intéressant pour le relever, et donc on a bossé un an et demi pour trouver la bonne matière, trouver les bonnes techniques pour faire les patchs, pouvoir les faire à la main, mais faire en sorte de pas en faire un toutes les heures, parce que
c'est
sinon
ça, il faut
c'est
faire
pas,
quand même des
c'est pas vraiment gérable. Et en fait, c'est le concept et le défi qui porte la marque.
Eh bah ben parfait, on entrera alors, un peu plus amplement dans
donc,
votre atelier.
Le patch, un écusson qu'on peut patcher, dépatcher, scratcher, descratcher. On verra après. Et donc finalement, le vêtement devient un élément de communication.
Exactement, le
thème. Mais au-delà, dis-moi ce que tu penses, je dirais qui tu es, là, tu dis carrément qui tu es.
Vite, on va
parler. Allez, on va à la mozzarella parisienne, mais italienne.
chez Autanta, Sarah Lacomba, juste parce qu'après, on va devoir faire une pause, mais très rapidement, votre idée, c'était quand même de faire de la burrata ou de la mozzarella française.
Oui. Bah, en fait, je suis partie déjà de mes origines.
Les pouilles.
Si j'étais en reconversion.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'accent qui parle.
Et ça, je le garde. C'est marketing. Et toute ma vie professionnelle, j'ai mis un peu de côté mes origines. Donc, c'était une façon pour moi de me rapprocher et de valoriser ce que je suis. Et j'ai choisi un produit qui, en ce moment, est le produit phare, je dirais, de la gastronomie italienne en France et notamment à Paris. En allant chercher une fierté française, donc le lait.
C'est tout simple.
On
fait une petite pause et vous allez nous raconter ce qui a l'air d'être tout simple. Comment on fait de la burrata avec du lait français? C'est pas forcément si simple. On fait une petite pause sur BFM Business. Good Lux, on vous retrouve juste après pour cette exposition à Paris, au Bon Marché. À tout de suite.
BFM Business, Good Lux Paris, l'édition du week-end. Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Le meilleur de la création parisienne est installé en ce moment jusqu'au 15 octobre au Bon Marché Rive Gauche. On en a un petit avant-goût, si j'ose dire, avec Sophie Joly, directrice du département événements commerciaux au Bon Marché, avec Étienne Piketty, cofondateur d'Abi Cactus, avec Sarah Lacomba, fondatrice de Autanta, et Thomas Serkevic, cofondateur de RSVP Paris. On s'était arrêté avec vous, Sarah Lacomba. On avait juste comme ça commencé à donner, à mettre l'eau à la bouche de nos auditeurs et téléspectateurs. Autanta, c'est l'histoire d'une Italienne des Pouilles en pleine reconversion qui se dit, si je ramène de la burrata d'Italie, c'est pas terrible, finalement.
C'est déjà fait, surtout.
Et surtout, c'est déjà fait. Donc, je vais faire la burrata avec le lait des vaches, j'allais dire des vaches parisiennes, pas tout à fait.
Compliqué,
pas
là.
Loin.
Pas loin. Elles sont en Île-de-France, vos vaches?
Alors, oui, pour l'instant, elles sont dans le 77.
Seine-et-Marne.
À
Beauce,
à Bray. Et dans le Bray. Bray ?
Dans la Brie.
Oui, dans la Brie.
Voilà.
Dans la Brie.
Et dans les Pouilles, ça doit être Pouglia, je sais pas quoi. C'est en italien.
Pouille, oui. Voilà. Et à terme, donc, on va passer sur la Bergerie nationale de Rambouillet. Donc ça va être c'est les Yvelines.
Exactement.
Les Yvelines, toujours le terroir d'Île-de-France.
Voilà.
Alors, le lait des vaches françaises. Mais on parle souvent ce qui fait la vertu d'un produit. Alors, je ne sais pas s'il y a des appellations contrôlées, des appellations protégées en Italie, mais c'est justement la terre, le terroir, au-delà du savoir-faire, un espèce d'environnement, un paysage. Est-ce qu'une burrata ou une mozzarella fait avec les plus belles vaches
et le plus beau lait
d'Île-de-France, c'est encore de la burrata et c'est encore de la mozzarella?
Alors, il y a deux choses. On me pose souvent cette question. Il n'y a pas vraiment un AOC qui protège la burrata. Il y a une sorte d'IGP, mais le seul AOC qui existe, c'est sur la mozzarella di bufala campana, qui est vraiment très très spécifique.
Très protégé.
Voilà. Sur la burrata, le paradoxe, c'est que les gens ne savent pas, mais très souvent, dans les Pouilles en été, on manque de lait et on prend le lait de France. Donc quand on dit le terroir, voilà, machin.
Vous avez raison.
En fait, on prend déjà le terroir.
Mais dites la vérité. Ouais.
Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est très vrai le fait que souvent on s'imagine que voilà, les vaches, des Pouilles, voilà. Mais il y a des produits qui vraiment ne peuvent pas voyager. Moi, j'ai trouvé la métaphore parfaite, c'est avec la baguette. Vous allez chercher le meilleur ouvrier, le champion de la baguette à Paris, et vous lui dites, tu envoies ta baguette à New York.
C'est impossible, ça ne fonctionne pas, vous avez raison.
Voilà, et c'est exactement la même chose. Voilà.
Mais alors, comment ça se fabrique? Parce que ça a l'air tout simple, alors que normalement, souvent, nous, on est habitué au fromage français, et bien, il faut les laisser vieillir, mûrir, etc. Est-ce que c'est simple? Vous pouvez, dans votre petit atelier qui était à Argenteuil, maintenant à Paris, chez Autanta, vous pouvez fabriquer là tout ça? Vous avez tout sous la main pour fabriquer vos fromages?
Oui. Alors, là-bas, c'est toujours la fabrication d'un fromage. Donc, il y a du lait, on le fait cailler, on le fait fermenter d'une façon particulière. Pour des petits volumes, effectivement, on travaille directement à l'atelier. Des fois, on a des très grands volumes, comme à l'été, pendant l'été, où c'est vraiment la haute saison. Et là, on s'arrange avec des fermes et des ateliers plus grands qui nous aident, en fait, qui nous accueillent, entre guillemets. Mais après, ce qui est génial avec tout la mozzarella, la burrata, ce qu'on appelle les produits à pâte filée, c'est qu'on peut les fabriquer à peu près partout. Oui. Moi, je peux venir fabriquer la mozzarella même chez vous. On le fait
même au bon marché.
On le fait très souvent au bon marché. Voilà.
Il n'empêche que, alors là, c'est le produit brut, c'est le lait. Là, c'est du lait des élevages d'Île-de-France. Est-ce que ceux qui le transforment, le savoir-faire, c'est des Italiens qui ont quitté. Ah, quand même.
Alors, oui.
Donc, il y a bien un tour de main.
Oui. Transalpin. C'est, voilà. C'est, alors, pour l'instant, enfin, moi, j'ai créé le projet avec un fromager qui travaille depuis 20 ans. C'est un Italien. On a un autre fromager aussi italien qui nous a rejoint, mais je suis pas du tout ségrégationniste par rapport à ça. Et donc là, on a commencé à accueillir des apprentis français qui font des licences en produits laitiers parce que il y a pas de raison.
Sophie, au moment de la sélection, quand une mozzarella parisiano-italienne a débarqué, vous l'avez goûtée?
Alors, on l'a goûté, bien sûr. À la grande épicerie, on goûte tous les produits qui rentrent. Il y a un comité de...
À la veille, mais comment ça s'est passé?
Alors, ça dépend après des produits. Avec Sarah, je pense que ça a été plus simple. On s'est rencontrés avec les équipes de la grande épicerie. Et oui, de toute façon, tout
est-ce
rentre.
Que, je pense que la question derrière que vous allez poser, est-ce qu'elle a le même goût?
Voilà.
Est-ce qu'il y a un goût parisien de la
boîte? Elle est délicieuse.
Je peux pas dire le contraire. En tout cas, c'est intéressant ce que vous êtes en train, au nom de l'Europe, d'inventer ce qu'on pourrait appeler un terroir métis. Un terroir non pas hybride, mais un terroir justement. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au nom du terroir, souvent, on aime bien enfermer les choses. Et c'est vrai qu'il faut les protéger. Oui. Mais dans le même temps, ce que vous dites sur, ce que vous venez de dire sur la baguette, ça ne marche pas, ça ne voyage pas, ces produits-là. Les trois quarts du temps, et les deux, trois bons distributeurs de mozzarella ou de burrata à Paris, ils sont très peu, et ils sont complètement connectés. La plupart du temps, c'est les restaurateurs qui captent leurs produits, et les deux, trois kidam qui sont au courant, à 9h, elles sont en vente, à 9h30, il n'y en a plus une.
Exactement.
Donc vérité, on ira... c'est qu'il y a peut-être un avenir pour un terroir, si ce n'est européen, mais métis, à condition qu'on réfléchisse bien à la...
Exactement.
Savoir faire des choses.
Donc on ira où au bon marché, ou chez Autenta, rue du Cardinal Lemoine?
Oui,
c'est ça, dans le 5e arrondissement de Paris. Très rapidement, Sophie Joly, à la grande épicerie, vous disiez tout à l'heure, je m'étais un peu perdue, c'est 150 marques en tout sur cette exposition oui. Paris au bon marché. Donc là, vous avez eu à foison parce que les brasseries de bière, même les alcools parisiens, les chocolats parisiens depuis ces dernières années, c'est incroyable.
Oui, des brasseries, des bières brassées à Paris, oui. On en a plus d'une quinzaine sur cette exposition. On a en effet la mozzarella de Sarah, on a des confitures, du miel, on a de l'alcool, le Made in Paris, le Locavore, et est extrêmement revendiqué, et encore plus dans cette exposition, ça nous a tenu à cœur d'avoir vraiment quelque chose qui soit fait à Paris ou en très très proche banlieue.
Toutes marques confondues, vous en sélectionnez 150, très sincèrement, lorsque vous avez fait votre petit parcours
marché.
En bus, c'est combien de marques que vous avez, combien de maisons, combien de fabricants, d'artisans que vous avez rencontrés pour en sélectionner de 150? C'est le double, c'est le triple?
Non, c'est pas le double. On a quasiment collaboré avec l'ensemble des marques qu'on a rencontrées. Après, ça c'est...
C'est si vertueux que ça, le terroir parisien?
Oui, après, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est soit une marque qui vient avec tout son univers, soit c'est un produit en particulier. Et du coup, on arrive à raconter toutes ces histoires, à mettre en avant, c'est ça, le côté très cosmopolite, le côté très créativité foisonnante, l'appartenance au quartier. On avait à cœur de retranscrire tout ça. Donc à un moment, on n'a pas sélectionné 100% des marques qu'on a rencontrées, mais quasiment...
Étienne Piketty, vous faites pas de la gastronomie quoi qu'avec votre faux plat habit cactus sur la veste. Ces patchs, on s'est arrêté, ils sont réalisés par Zité. Elle est diplômée quand même de l'école des arts appliqués de Dupéret. Elle est costumière pour le cinéma. Et vous nous parliez des matières, des matériaux, parce qu'effectivement, vous avez choisi de ne pas faire de vêtements, mais vous êtes quand même attaché à toute cette fabrication artisanale finalement.
Bah les patchs sont tous faits à la main par Zité dans notre atelier. Ce qui...
Et c'est quoi, c'est du cuir, c'est du...
Alors ça dépend, il y en a beaucoup qui sont en cuir. Les trèfles par exemple sont en cuir. Ensuite l'œuf c'est du silicone.
Ah oui.
Donc ça veut dire qu'on a dû créer des moules pour couler le silicone à l'intérieur. Ça veut dire que si on veut faire 8 œufs dans la journée, il faut qu'on ait 8 moules.
Wow.
Donc c'est un peu une technique de production qui est artisanale. Et donc je vois Zid tous les jours dans son atelier et j'arrive encore pas tous les jours à comprendre comment elle fait pour les faire tous, elle, seule, et en faire autant. Et bien.
Parce que vous nous avez montré ceux qui se scratchent, mais il y a ceux qui se collent, il y a ceux qui se sont un peu comme des pins, c'est-à-dire que ça marche tellement bien que vous avez dû développer l'offre, quoi.
On décline l'offre. Ce qui est rigolo, c'est de pouvoir en mettre partout, pas seulement sur nos vestes, parce que les vestes ont été développées exprès pour accueillir les patchs, avec une entreprise française d'ailleurs.
À trois.
Mais quelqu'un qui aime les patchs, mais qui veut les porter sur sa veste en jean, ce serait dommage de l'en empêcher. Donc on a créé des broches avec lesquelles... sur lesquels il peut les mettre.
Et il y a combien de modèles aujourd'hui ? Parce que c'est vous qui les dessinez, là ?
On les dessine.
Alors, justement, exactement. C'est un véritable alphabet, une sorte de vocabulaire pour se raconter. C'est combien aujourd'hui à disposition ? Là, je vois un trèfle.
Là,
un
œuf au plat,
un trèfle à quatre feuilles.
Un
trèfle à trois feuilles, un cosmonaute, un poisson.
Des yeux, des couronnes. En fait, aujourd'hui, on a à peu près 45 références, sachant que dans chaque référence, il peut y en avoir plusieurs. Parce qu'on conceptualise les boîtes un peu comme des petits tableaux. Donc ça veut dire qu'il y a une planche dans laquelle il peut y avoir un tigre et un crocodile.
D'accord.
Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a 150 références qu'on dessine nous ou alors on collabore avec des artistes qu'on aime bien et qui dessinent des séries patch exclusives.
Et à terme, est-ce que le public pourra avoir via peut-être un site internet, il pourra lui-même dessiner son patch
ça,
et vous le réaliserez.
Ça, c'est l'utopie qu'il y a derrière la marque. Mais comme toutes les utopies, il y a des bons et des mauvais côtés. C'est-à-dire que ce serait génial qu'en 5 minutes, votre fille puisse faire un dessin, nous l'envoyer et le lendemain. Et en plus, si elle dessine bien, ça va faire un carton. Nous l'envoyer et le lendemain, on le renvoie et elle peut le porter sur son blouson. Mais ça se trouve, quelqu'un va dessiner quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir. Et c'est le mauvais côté. Et c'est le mauvais côté de l'idée de génie. Mais à terme, c'est une idée qu'on a, ouais.
Et c'est une idée, alors là, quelle transition, c'est une idée que Thomas Serghaïwi a creusée pour la maroquinerie à RSVP. Parce que vous, c'est ce que vous avez dit. Vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire, et vous vous êtes dit, bah voilà, on est quand même une jeune entreprise, la maroquinerie, ça coûte cher. Donc on va les consulter un petit peu, ces futurs clients.
Oui. En fait, il y a un problème dans la maroquinerie en général. Il y en a deux. Il y a celui des minimums de quantité. Et puis, il y en a un deuxième qui est celui de l'offre. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir, avant d'avoir mis un produit sur le marché, ce que les clients voudront acheter ou pas. Donc nous, la manière qu'on a trouvé pour résoudre ces deux problèmes, c'est en fait de proposer des modèles en précommande pour une durée limitée, donc 30 jours par exemple, et puis de ne produire que ceux qui ont reçu suffisamment de demandes de la part de nos clients, un peu comme un crowdsourcing finalement, mais qu'on a internalisé. Donc ce sont les clients qui déterminent les modèles qui seront produits ou non. Les autres resteront au stade de prototype et donc ne partiront jamais en production en série.
Et on a oublié de préciser, c'est autour de la pochette. Vous travaillez vraiment la pochette.
Oui.
Même si vous avez énormément développé, mais pochette de soirée, enfin porte-documents, porte-feuilles, porte-cartes, et puis après la pochette qui se décline.
Exactement. En fait, on a commencé avec quatre modèles qui étaient un porte-documents, un porte-cartes, une pochette de soirée et puis un portefeuille. L'objectif, c'est d'enrichir cette gamme. En maroquinerie, la difficulté, c'est qu'il y a autant de clients que de produits. Donc il y en a un qui va vouloir une poche à billets, l'autre qui en veut pas, etc.
Vous n'avez pas demandé à Thierry.
Donc tant qu'on n'aura pas une gamme complète, on aura du mal à satisfaire tous les besoins, mais on y va progressivement.
Alors vous êtes en train d'inventer un peu la maroquinerie participative, voire référendaire. Lesquels de vos modèles ont été plébiscités par le public et vont être exposés et vendus sont exposés et vendus au bon marché?
Alors, pour le bon marché, on a à la fois des modèles de la collection permanente, qui sont des modèles que les clients, en effet, ont validés, entre guillemets, et qui sont sur notre site tout le temps. Et puis, on a fait des exclusivités. On a fait une collaboration avec une marque que je peux certainement pas citer, mais voilà,
allez-y.
Maison Château Rouge, et qui fait des
donc
hauts,
ça c'est votre t-shirt par exemple, Sophie Joly, ça voilà. C'est Maison
Château Rouge, on rappelle, hein, ça reste un joli quartier parisien.
C'est un quartier parisien, absolument, voilà, qui est, donc c'est un peu l'Afrique à Paris, et on a fait une collaboration avec eux où on a doublé des pochettes et des porte-cartes avec ces tissus en wax. On a fait 5 modèles et chaque tissu a une histoire, ils ont tous un nom. Celui-ci c'est Olympique, il y en a un autre qui s'appelle Hirondelle, l'œil de Marival, ils ont tous des noms assez poétiques.
C'est à ça que ça sert aussi au bon marché, c'est de provoquer des collaborations, même si en général ils savent aussi bien se débrouiller tout seuls. Il y a beaucoup, beaucoup de collabs, mais vous, vous aimez les provoquer.
On a joué un peu les entremetteurs avec l'ensemble des marques avec lesquelles on avait envie de le faire, qui aussi étaient très réceptives. Donc, en effet, avec RSVP et Maison Châteaurouge, on a fait cette collaboration. Avec Abby Cactus, on a fait une collaboration avec PSG et Finger in the Nose. Et du coup, ce regard croisé sur deux marques, sur deux univers, ça fait des produits, alors d'une part, qui sont exclusifs pour le bon marché, c'est pour nous important. Donc, on a presque finalement plus de marques et de produits à la fin de notre périple, puisqu'on a créé aussi des opportunités. Et puis ça retranscrit tout ce côté communautaire dont on a parlé en faisant rencontrer les marques, et j'espère que ça va continuer au niveau des collaborations.
Et je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est important, même si on parlait pas forcément de Made in Paris, mais de créer, imaginer à Paris, mais derrière, c'est tous du Made in France, quand même, ou pratiquement complètement. Chez RSVP, vous fabriquez où, Thomas Serquet?
Nous, on a deux ateliers, l'un qui est en Franche-Comté, l'autre qui est en Touraine, qui ont tous les deux la particularité de travailler pour les grandes maisons de la rue Saint-Honoré. L'un est plus petit, plus récent, l'autre est déjà un peu mieux dimensionné. En tout cas, tous les deux partagent un grand savoir-faire. On en a fait 12 avant de trouver ces deux-là. Voilà.
Donc voilà, c'est à découvrir. Donc ça s'appelle RSVP Paris sur votre site internet au bon marché. Et je voudrais juste citer, vous êtes toujours à La Garçonnière?
On est à La Garçonnière et on est rue Charlot au 18 jusqu'à la fin de la semaine prochaine, jusqu'au 25. Septembre.
Et ben voilà, on saura où vous trouvez. Autempta, merci beaucoup à vous, Thomas Serquet, Sarah Lacomba, fondatrice de Autempta. Merci beaucoup à vous. On rappelle, c'est 19 rue du Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement de Paris. Étienne Piketty, merci beaucoup à vous, Abby Cactus. On vous retrouve aussi, comme tous les autres, donc au Bon Marché Ribgaud jusqu'au 15 octobre pour cette exposition Paris.
Bon Marché.
Est-ce nécessaire?
24 rue de Sèvres.
Merci beaucoup à vous, Sophie Joly, directrice du département événements commerciaux au Bon Marché. Restez avec nous, Good Luck Paris continue dans un instant, le livre de la semaine, on vous emmène voyager et l'agenda.
Good Luck Paris, l'édition du week-end, le livre de la semaine.
Et donc pour le livre de la semaine, Emmanuel, un coffret, 6 livres en un. Et vous allez voir, ça va vous dire quelque chose. Si je vous dis Chanel, ses champs fleuris, grâce.
Parfum.
Dans les champs de Chanel à Pégomas en Pays de Grâce. Voilà le nouveau coffret qui vient de sortir. Donc 6 petits cahiers aux éditions La Martinière. Voilà, hop, noir et blanc, couleur de Chanel. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve? Histoire d'une année de culture et de récolte, des fleurs à parfum d'exception. Et c'est notre ami Lionel Paillès. Voilà, chroniqueur chez nous, qui est allé à Grasse et qui a récolté avec eux. Non, mais c'est pas seulement récolter, parce que c'est suivre sur toute une année de la plantation, de la production, et savoir à quoi vont servir ce jasmin de Grasse, cette rose de mai, l'iris pallida, etc., etc., ou encore la tubéreuse.
Alors, on est parfaitement dans la matrice qu'on aime des beaux livres, c'est-à-dire des beaux livres qui réfléchissent vraiment au façonnage, à un objet. Un beau livre, c'est aussi ça. Et puis, on l'a raconté souvent, Lionel le raconte très bien, il le transforme ici, j'ai pas lu, hein, mais on a compris que le parfum aussi est un terroir, un paysage, façonnait les choses.
Des
j'adore.
Photos.
Je suis pas beaucoup rentré dedans, mais j'adore.
Énormément de photos, on rentre aussi bien sûr dans la fabrication
photos,
de Pierre Evan, Even, je sais pas comment on dit, E-V-E-N. Et c'est l'histoire aussi, on en avait parlé un petit peu ici même avant l'été, de la relation entre Chanel et la famille Mull, qui est producteur de fleurs. Et ensemble, ils ont créé un partenariat depuis 1987 pour toutes ces fleurs qui entrent dans la composition des parfums Chanel.
Et en le feuilletant rapidement, finalement, c'est assez humble au niveau des textes. C'est-à-dire que c'est des gros caractères, c'est des petites monographies très courtes. Ouais. C'est pas non plus un texte impossible à lire. On rentre pas terriblement dans le détail. C'est très
impressionniste. Allez, rendez-moi ça, je sens que vous allez me le piquer.
Je vous le pique, c'est clair. ça m'appartient à partir de maintenant. C'est pour moi. Oh. Vous me le rendez, vous me le donnez.
En tout cas, tout ceci nous donne un parfum de voyage. C'est Good Luck d'ici, d'ailleurs.
Good Luck Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Karine, comment ça va?
Ben, très bien. Maïmoun Spots.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Maïmoun Spots, comme le dit Emmanuel, en cette rentrée, c'est souvent l'heure des city breaks déjà qui se préparent.
Exactement, il y a pas mal de gens qui préparent des petits voyages.
Et ben voilà, les petits voyages de rentrée. Parce que
ah, moi, je suis déjà parti avec Chanel et Grasse. Hein. La preuve, c'est que j'ai mon passeport.
Alors là,
Karine vient de me le donner.
Alors, on part pas dans des champs de roses, mais je voulais vous proposer trois adresses city break, donc de part et d'autre de la Manche. La première à Londres, dans le quartier de Notting Hill, à deux pas du marché, évidemment, de Portobello, ses senteurs, ses antiquaires vintage, son quartier bien coloré. Et donc vous m'avez complètement troublée en fait là,
Emmanuel.
Un hôtel qui est à deux pas du marché de Portobello et qui s'appelle L'Aslette, qui vient d'ouvrir. C'est un peu l'adresse courue du long trendy et élégant du moment. Et j'ai bien aimé cette atmosphère un peu minimaliste, très élégante, très british, qui ne cède pas aux vieux hôtels un peu fatigués, typiquement anglais justement. On sent une vraie vague de renouveau à Londres. Donc courez-y. C'est le L'Aslette et il y a un bar qui s'appelle l'Anderson qui sert des plats de la chef londonienne Sally Clark que vous devez connaître.
Non.
Eh ben, il faut absolument
Ils ont une telle densité de chefs désormais que je ne peux pas les suivre tous. En tout cas, c'est un City Brexit là.
Voilà.
Ça donne envie.
Elle est bonne.
City Brexit que l'on retrouve sur mymoonspot.com qui fait partie de votre sélection, bien entendu. Et donc votre sélection, de temps en temps, elle passe par Paris aussi. Vous vouliez nous parler, parce que vous êtes allé les voir, de deux hôtels qu'on avait annoncés ici même dans Good Luxe Paris, et notamment le Saint.
Alors le Saint, je ne savais pas que vous en aviez parlé, mais donc c'est trois petits hôtels qui ont été réunis. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de chambres. J'ai eu un coup de cœur pour l'hôtel, mais d'abord pour la rue aussi, la rue du Pré-Auclair que vous devez connaître, qui est dans le 7e arrondissement. C'est une rue délicieusement désuète, avec encore des antiquaires, des galeries, un relieur. Donc on a vraiment l'impression d'être en province. Et en arrivant aux abords du Saint, on voit de la vigne, du lierre qui dégouline. C'est très étonnant. Ça, c'est une volonté du propriétaire qui a la main verte et donc qui a tiré un parti pris très, très écolo et vert, avec notamment, on en reparlera peut-être, mais il y a un bar à fleurs à l'intérieur de l'hôtel. Donc, au lieu de prendre un mojito au bar, vous prenez un bouquet de dahlia ou de rose et vous pouvez le monter dans votre chambre. C'est quand même un concept assez original. Donc, le Saint, c'est un joli coup de cœur pour un hôtel. Et ça, vous allez aimer, je pense, Emmanuel, qui ne cède pas à la mode des hôtels à thème, bling-bling, qui ne surfent pas trop sur une surexploitation des tendances. Je pense qu'ils sont restés droit dans leur botte, avec une décoration simple, authentique, très chaleureuse, avec une cheminée, une bibliothèque. On est effectivement dans le quartier des éditeurs, hein, deux pas de Gallimard, etc. Et en même temps, il sait capter les tendances, le propriétaire, parce qu'il a noué des partenariats avec des gens que vous recevez sûrement ici, comme Pierre-Élie de Pibra, qui a fait les photos et qui, lui, a un côté un petit peu irrévérencieux dans ses photos. Le parfumeur Barnabé Fillon, qui a, lui, signé une bougie. Enfin, il y a tout un tas de collaborations avec quelqu'un qui, justement, on sent qu'il y a du nez, mais qui en même temps n'en fait pas trop.
Donc ça, c'est le Saint à Saint-Germain-des-Prés. Et le deuxième, rapidement,
Rue de Charonne, je vous avais parlé de l'écologe Eden Lodge Madagascar. C'était donc un des hôtels les plus écologiques d'Afrique. Et là, le propriétaire a eu l'idée, enfin, tenter un pari aussi assez audacieux, créer justement un écologe en plein Paris. Donc il a créé la première maison zéro carbone en plein Paris. Si ça existe, vous ouvrez cette porte cochère, vous dites c'est pas possible, il peut pas y avoir un jardin, mais il y a quand même 500 mètres carrés avec des érables, des cèdres, etc. Donc maison zéro carbone, c'est joli, chaudière à granulés de bois, WC japonais qui sont plus économiques que les nôtres. Ne me demandez pas pourquoi. Récupération des eaux de pluie, carrelage purifiant l'air, toit végétalisé, etc., etc. C'est vraiment un endroit très étonnant.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Eden Lodge, Paris.
Eden Lodge.
C'est rue de Charonne. On ne peut pas le soupçonner.
Ah non, quand on monte la rue de Charonne. Autant la rue au Pré-Auclair, comme vous dites, délicieusement désuète, autant la rue de Charonne.
Pour la petite histoire, les Français sont quand même toujours en retard sur les tendances, mais il y a énormément d'étrangers qui aiment cette adresse pour l'instant, des Mexicains, des Américains, parce qu'ils sont très sensibles à l'environnement.
Et tout ça, on les retrouve sur mymoonspots.com où vous nous dénichez ces belles adresses parisiennes et internationales aussi. Merci à vous, Capucine Grabi. Allez, rapidement, restez encore un peu avec nous, c'est l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Une info secrète. Top secrète, Emmanuel.
Une expérience, en tout cas. Ça s'appelle les dîners secrets. Ça va se passer à partir de fin septembre, début octobre. Alors, vous allez aller sur le site www.dînersecrets.com. Et c'est le Plaza Athénée à Paris qui renoue avec un genre qui était celui qu'orchestraient beaucoup de palaces dans le 19e siècle, début du 20e siècle, c'est-à-dire des dîners un peu à thème. Et des dîners un peu mystérieux. Faut pas oublier que le cinéma et des frères Lumière a été inventé, en tout cas présenté au public parisien et au monde, du côté d'un palace, l'hôtel Scribe. Et puis il y avait une tradition de orchestrer des soirées un peu comme cela mondaine, où on mélangeait, on était à mi-pente de la gastronomie et de la magie.
Et eh bien, le Plaza rejoue avec cette expérience. Alors, allez sur le site pour voir les dates. Il y aura que 3 dates, parce qu'il y a pas mal de palaces européens
qui jouent. Ils font disparaître l'addition aussi.
Ils ont demandé non. Alors, malheureusement pas, je ne crois pas. Parce qu'ils ont demandé à l'un des grands magiciens du moment, qui s'appelle Stéphane Leichaud, qui est un de ces magiciens, vous savez, qui joue sur la 3D, sur le mentalisme, sur le mystère un peu technologique.
Ce sont les...
Il va orchestrer dans les salons du Plaza des repas, dîners assez extraordinaires. Ça s'appelle Dîner Secret. Allez sur ce site. Le mec, il a pas, absolument.
Allez, je termine
il rapidement. Il va faire nombre à Ducasse. D'accord, il ne fera pas de mal à Ducasse.
Allez, on commence par Ducasse et on termine par Ducasse, voilà. Dans Goût de Luxe. Du coup, tout ça, ça nous amène à la fête de la gastronomie, quand même, 24 septembre prochain. Et donc, je voulais juste vous annoncer, mais je vais vous en reparler la semaine à 14h dans Goût de Luxe Paris. Il y a des tables d'exception et notamment chez Taïwan, le 24 septembre, ils proposent des ateliers de l'art du service et ils mettent en avant tous ces savoir-faire autour de la gastronomie, autour aussi de tout l'art du service, les couverts, etc., les orfèvres. J'en passe et des meilleurs. Et en tout cas, ce sera rendez-vous le 24 septembre. Il y a plein de choses et on en reparle toute la semaine dans Goût de Luxe Paris à 14h. Et nous, on se retrouve très bientôt. Capucine Grabi, merci beaucoup à vous. Et Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine.
Même je vous jure, je vais réussir à vous sortir mon resto éphémère. Elle n'est pas encore sortie, mais elle est croustillante. Ça fait un mois que j'y arrive pas.
Vous allez nous le raconter la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.
BFM Business, Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end.